L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 24 octobre de l'an 79 de notre ère, dans la baie de Naples. Le ciel est bleu, la mer aussi, bien sûr. À quelques encablures, 9 kilomètres à peine de Pompéi, se dresse, majestueux, le Vésuve, qui forme un triangle presque parfait sur l'horizon. Le géant est entré depuis longtemps dans un grand sommeil et les habitants qui se sont installés à ses pieds profitent d'une terre fertile et de la proximité de la mer. Si la cité décline un peu en raison de la concurrence du vin gaulois, Pompéi reste un endroit où il fait bon vivre et pourtant... À 13h, le 24 octobre 79, le volcan en sommeil va se réveiller, anéantir la cité et avec elle, des milliers de vies humaines. 24 octobre 79, il est 13h, c'est l'heure H de mon histoire. Avant de nous pencher sur la bouche du volcan Furie, les précisions s'imposent. Car pendant longtemps, ce n'est pas la date du 24 octobre qui était citée lorsque l'on évoquait le drame de Pompéi, mais celle du 24 août. Pour l'UNESCO, qui a classé le site de Pompéi au patrimoine mondial en 1997, c'est d'ailleurs toujours la date du 24 août qui est retenue. Mais alors, d'où viennent les doutes et les conflits qui ont opposé et opposent toujours ? Les scientifiques. L'histoire est passionnante. Écoutez plutôt. Pour ce qui est de l'année, ça ne fait aucun doute. Les événements se déroulent en 79. L'empereur Titus vient de succéder à Vespasien, mort en juin. C'est Titus, seul maître à bord, qui ordonna que l'on vienne en aide aux personnes déplacées. Mais pour ce qui est de la date... C'est une autre affaire. Car le moment de l'année où Pompéi va disparaître de la carte du monde n'est mentionné que dans une seule lettre, envoyée par Pline le Jeune, âgé de 18 ans à l'époque, à l'historien Tacite. S'il existe diverses versions du manuscrit de la lettre, les moines copistes y contribuèrent, il en est une qui semble être la plus digne de foi. Elle évoque 9 jours avant les calendes de septembre, soit le 24 août. Pourtant, des découvertes successives faites à Pompéi, et ce, dès le XVIIIe siècle, portent à croire que la ville fut détruite en octobre. Lesquelles ? Les gens retrouvés dans les cendres portent des vêtements relativement chauds, ce qui, en août, dans la canicule du sud de l'Italie, semble anachronique. Idem pour les restes de brasero que l'on a retrouvés. D'autres détails n'ont pas échappé aux archéologues. Les fruits retrouvés sur le site sont ceux de l'automne. Figues, grenades, châtaignes et pruneaux. En revanche, les fruits d'été étaient déjà séchés, mis en conserve. Une pièce retrouvée dans une boutique a été frappée fin septembre et les jarres de vin étaient déjà scellées, ce qui se faisait généralement en octobre. En 2018, lors de fouilles, une inscription est mise au jour dans la maison dite « du jardin ». Un simple graffiti, mais d'une importance capitale qui dit le 16e jour avant les calendes de novembre, soit le 17 octobre. Difficile d'imaginer qu'un petit malin serait allé y faire un faux en écriture. Tout porte donc à croire que c'est au Moyen-Âge qu'un copiste se serait trompé dans la retranscription et que son erreur serait arrivée jusqu'à nous et jusqu'à l'UNESCO. Octobre 79, la fertile région de Campanie, où se niche Pompéi, sur une langue de lave, est surnommée « Terre des dieux ». Sur les versants du Vésuve pousse une forêt où les hommes aiment à chasser. Il y fait frais quand on étouffe sous le soleil, qui se montre plus que généreux dans la région. Sur les flancs de l'imposante montagne pousse également un raisin réputé qui, chaque automne, est récolté par les esclaves. le 21 septembre, jour de l'équinoxe. Les vendanges ont commencé pour se terminer au coucher des Pléiades, le 11 novembre. On ne rigole pas avec le calendrier chez les Romains. Travaillant sans relâche comme des bêtes de somme, les esclaves, chargés de récolter le raisin, sont attachés les uns aux autres par de longues chaînes aux pieds. En fin de journée, ils regagnent les fermes qui ont fleuri sur les pentes du Vésuve. Depuis quelques années toutefois, il est un petit peuple qui fait de l'ombre à Rome et que les lecteurs d'Astérix connaissent bien, les Gaulois. Car si le vin pompéien est bon, celui de la Gaule n'est pas mal non plus. Et la concurrence fait perdre de sa superbe à la cité romaine. La région est riche, certes, mais moins plantureuse qu'autrefois. N'empêche, à Pompéi, on vit bien. La mer est poissonneuse, la terre est fertile. Et c'est encore là, dans la baie de Naples, que l'on trouve les meilleures pierres pour fabriquer les meules à huile du pays. Je vous le disais, une terre des dieux. Et l'un d'eux, Vulcain, le dieu du feu, va piquer une grosse colère à la fin du mois d'octobre. Mais jusqu'ici, tout va bien. Construite par les Grecs et les Étrusques, la ville de Pompéi sort de terre au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont ensuite les Samnites, un peuple issu d'une région montagneuse de l'Italie qui s'y installe. Il faudra attendre 290 avant notre ère pour que Pompéi devienne romaine. Et encore, la cité ne fera réellement partie de l'Empire que 2 siècles plus tard, quand le général romain Lucius Cornelius Sylla en prendra possession après un siège plutôt brutal. Oust ! Allez, dehors les Samnites, on décide d'y installer une colonie romaine qui compte notamment 2000 vétérans de l'armée. Et puisque les infrastructures, les habitations, les routes sont en très bon état et très bien pensées, les Romains s'y installent sans rien détruire. Oh bien sûr, on sait depuis longtemps que le Vésuve est potentiellement dangereux. 1er siècle avant notre ère, l'architecte Vitruve, à qui l'on devra d'incroyables constructions, l'homme étant un véritable génie visionnaire, Vitruve donc écrit ceci. On dit que les feux qui brûlent sous cette montagne ont autrefois éclaté avec une grande force et jeté beaucoup de flammes dans tous les lieux d'alentour. Oui, mais voilà, il fait bon vivre à Pompéi. Et on préfère croire que le bon gros géant, qu'est le Vésuve, dort à poids fermé et que sa bouche ne bâillera pas de sitôt. Outre les vendanges, en ce mois d'octobre 79, on vaque à ses occupations dans les boutiques tout au long de la rue de l'Abondance, centre névralgique du commerce à Pompéi. Les métiers sont très organisés et variés. Des boulangeries, que l'on dirait aujourd'hui ultra-modernes, côtoient des tavernes, des magasins de colifichets et de verroteries. À l'écart est installée une foulonicae, traduisée « foulerie », soit une blanchisserie devant laquelle on a disposé des grands pots dans lesquels les hommes sont invités à venir uriner. Eh bien, quel est le rapport, me direz-vous ? C'est simple. À cette époque, on n'avait pas encore trouvé mieux que l'urine pour blanchir le linge. Mélangées à de l'eau et du soufre, les pièces de drap et autres vêtements étaient piétinées par des esclaves, avant d'être rincées, évidemment. Une grande mixité sociale existe à Pompéi. Les demeures cossues jouxtent les ateliers d'artisans qui, eux-mêmes, voisinent avec des tavernes où l'on vient s'abreuver de ce bon petit vin que l'on fabrique ici. Riches et pauvres se mélangent, même si leur quotidien n'est pas fait des mêmes mets. Pour autant, ce n'est pas toujours le paradis. En été, la chaleur est accablante. D'où l'importance des bains, des thermes et autres piscines où l'on peut tout à la fois se rafraîchir, mais aussi, bien sûr, faire ses ablutions. Si les plus riches possèdent leurs propres équipements, la ville est dotée de nombreux sites accessibles au public. Les riches et les notables de Rome ne s'y sont pas trompés. Ils sont nombreux à avoir fait construire à Pompéi et dans toute la baie de Naples de somptueuses villas. À Herculanum, à Stabie, à Misène, à Oplontis, de superbes édifices dominent le bleu de la mer tyrrhénienne. Des pins parasols offrent de l'ombre. Des cyprès, des palmiers décorent des jardins éblouissants et luxuriants. Ici, l'eau ne manque pas, grâce au génie des architectes et des ingénieurs romains qui l'ont amené jusque dans les foyers, grâce à leur célèbre aqueduc. Celui qui alimente la région est l'Aqua Augusta, l'aqueduc d'Auguste, l'eau. salvatrice, pourtant, va jouer un rôle crucial dans le drame qui est en train de se jouer à Pompéi en octobre 79.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous propose de revivre les derniers instants de la ville de Pompéi, victime de l'éruption du Vésuve en l'an 79 de notre ère. Un drame dont on n'avait pas pu ou pas voulu voir les signes avant-coureurs. Sept ans plus tôt, le 5 février 62, un puissant séisme frappe la région de la baie de Naples et notamment Pompéi. La ville est détruite. Il y a de nombreuses victimes. La terre tremble, puis un petit tsunami soulève d'impressionnantes vagues. Sénèque raconte qu'un troupeau de 600 moutons est décimé. Les bêtes sont mortes à cause de l'air vicié. Il s'agit plus que probablement de dioxyde de carbone volcanique lié à la reprise de l'activité du Vésuve. Mais on préfère mettre ça sur le compte d'autre chose. Les croyances en diverses divinités sont alors très ancrées. On voit partout la colère des dieux plutôt que des phénomènes ou des catastrophes naturelles. En 62, donc, le Vésuve montre déjà des signes de son réveil. Il ouvre un œil, oserait-on dire, puis le referme. Et on respire à nouveau à Pompéi. On s'attelle à la reconstruction surtout, puisque le tremblement de terre a fait s'effondrer une partie de l'aqueduc, entraînant la fermeture des thermes. Peu rassurés, les riches romains préfèrent rentrer dans les terres, voire à Rome. Ils revendent leur villa à des nouveaux riches, souvent des esclaves affranchis qui ont fait fortune dans le négoce. Officielle ou non officielle. À cette époque donc, la cité change de visage et la mixité sociale, que l'on évoquait tout à l'heure, peut vraiment s'installer. Le nombre d'habitants ne cesse de gonfler. En l'an 79, alors que s'approche notre heure H, on estime entre 7500 et 13500 le nombre d'âmes qui ont élu domicile. Sur les chantiers en cours depuis 62, on s'affaire toujours. La ville n'a pas été entièrement reconstruite, mais les esclaves font du bon travail, malgré la pénibilité de l'ouvrage et l'absence de considération. Les artisans reconstituent les mosaïques et autres fresques qui donnent souvent leur nom aux maisons, comme celle de Vénus ou celle du Faune. À la fin de la journée, recrues de fatigue, les petites gens, les plus pauvres et les esclaves, font escale au Lupanar, la maison de prostitution officielle de la cité. Lupanar, du latin lupa, la louve, puisque selon les écrits, ce sont des cris identiques à ceux de ces femelles en chaleur qui s'échappaient des diverses chambres. Régulièrement dans la région, des petites secousses telluriques sont ressenties. La terre bouge un peu comme le dos d'un gros chat qui s'étire après la sieste. On s'en inquiète personne, on s'y est habitué depuis longtemps. Sauf que dans les jours qui précèdent l'éruption du Vésuve, les secousses se font plus intenses, plus régulières aussi. Mais une fois encore, on ignore ce signe prémonitoire. Et il y en a d'autres, des signes. Les puits se tarissent car le volcan pompe l'eau des différentes nappes phréatiques de la région. Du coup, les fontaines se vident, les thermes ferment leurs portes, l'aqueduc d'Auguste est soit bouché, soit endommagé suite à un effondrement. Il en est un pourtant qui sent que quelque chose n'est pas normal. Il s'appelle Pline, dit Pline l'Ancien, plus tard, pour le différencier de son neveu Pline le Jeune. Et il est amiral de la flotte romaine à Misène. L'homme a derrière lui une carrière militaire impressionnante. Il a été de toutes les batailles aux quatre coins de l'Empire. Il approche de la soixantaine, il est, disons, corpulent, et n'a plus l'allant de ses 20 ans. C'est bien normal après tout. Pline profite de la bonne chère, des bons vins de la région, et surtout il écrit. Car s'il a mené une belle carrière dans l'armée, il est aussi poète, historien de l'art, écrivain, philosophe et naturaliste. Autant dire que l'observation du monde qui l'entoure ne cesse de l'émerveiller, mais aussi de le préoccuper. Dans la villa de Misène, où il vit avec sa sœur et son neveu, Pline le jeune, donc, Pline l'ancien, a une vue imprenable sur le Vésuve. S'il a senti la terre trembler, comme tout le monde, en ce 24 octobre, c'est un message de détresse envoyé par son ami Rectina qui va lui faire prendre conscience de ce qui se passe là-haut, sur la montagne. Il est 13 heures quand Pline l'ancien sort sur sa terrasse et découvre, abasourdi, une colonne de cendres s'élevant vers le ciel. 13 heures, c'est l'heure H de mon histoire. L'homme a beau avoir beaucoup bourlingué, il n'a jamais rien vu de semblable. Le panache éruptif a une forme de pin parasol et s'élève à une hauteur de 30 mètres. Pline n'en revient pas. Il appelle son neveu qui, tout à ses études, est encore au courant de rien. Les deux hommes contemplent ce spectacle surréaliste. Une nuée donc apparaissait, qui, par son aspect et sa forme, rappelait un arbre et plus précisément un pin, écrit Pline le jeune. Et il continue. En effet, dressée tel un tronc svelte, elle semblait étendre ses rameaux. Elle devenait évanescente, s'élargissant, très blanche ici, ailleurs poussiéreuse et souillée par la terre et la cendre qu'elle avait soulevée. Dans un premier temps, c'est le scientifique qui s'anime en lui. Bon, vite, il faut partir, il faut aller se rendre compte au plus près de ce qui se passe là-bas, à Pompéi et sans doute aussi à Herculanum. Pline ordonne qu'on lui prépare un bateau léger. Il veut apporter son aide à son ami Rectina. L'équipage se prépare, mais le volcan se déchaîne et se met à projeter sur la terre des débris de pierres ponces et de cendres. L'amiral décide alors de lancer sa flotte de gros navires pour mettre le cap sur Pompéi, de l'autre côté de la baie. D'autres bateaux, des quadrirèmes, beaucoup plus grands et censément plus solides, sont envoyés vers les villes martyrs avec le fol espoir de pouvoir sauver des habitants qui auraient trouvé refuge sur le rivage. Mais naviguer dans ces conditions relève de l'impossible. Le bateau de Pline est rapidement recouvert de cendres et de ponces. Il faut se réfugier dans la cale avec les esclaves qui rament comme des possédés, mais qui n'avancent guère sur cette mer de pierre. Il faut se rendre à l'évidence. La seule solution est de s'arrêter à Stabie. Avant Pompéi, donc. Car après la cendre et la pierre ponce légère, ce sont maintenant des morceaux d'une pierre bien plus dure qui s'abattent autour du Vésuve. Sous son poids, la colonne s'est effondrée, provoquant une première coulée pyroclastique. Une nuée ardente, un nuage de cendres et de pierres qui dévale à toute vitesse. Le volcan crache, tenez-vous bien, 200 000 tonnes de fragments de magma par seconde. Et la nuée avance à la vitesse vertigineuse de 300 mètres par seconde. Au cœur de cette coulée, on estime la température entre 300 et 500 degrés Celsius. Dans les rues de Pompéi, déjà ensevelies sous les roches et la cendre, celles et ceux qui ont survécu à l'effondrement de leur maison et qui pensaient que le pire était passé, ceux qui, dans un dernier espoir de sauver quelques biens, ont mis le nez dehors, se retrouvent dans la nuit, qu'en plein jour. Pline le jeune écrit. Or, c'était le jour, mais tout alentour une nuit, plus épaisse qu'aucune autre régnait, pourtant atténuée par un grand nombre de feux et de diverses lumières. Mais ce n'est là que la première phase. Pourtant, près de 3 mètres de cônes, de ponces et de cendres obstruent déjà les maisons, les routes et s'engouffrent partout, étouffant tout, laissant la cité dans un état de désolation et de mort. Puis, la nuée ardente déferle, implacable, et emporte habitants et pillards. Oui, dans cette situation insensée, certains en ont profité pour venir vider les maisons dans lesquelles on pénètre désormais par les étages. Pour quelques bustes en marbre, quelques candélabres ou quelques pièces de monnaie, ils ont tenté le diable, le feu et, croit-il, la colère de Vulcain. Pline l'Ancien, pendant ce temps, est arrivé avec son équipage à Stabie. Son neveu a préféré ne pas l'accompagner. Il est resté à Misène, le cœur serré de voir son oncle, ce grand homme, cet érudit, prendre la mer et braver une fois encore les dangers. Dans des conditions dantesques, le navire parvient à s'approcher du rivage et l'équipage, esclaves compris, réussit à débarquer sur une plage où la cendre a remplacé le sable. Mais cela, il le voit à peine, tant le nuage obstrue tout espoir d'apercevoir le soleil. Pline assiste à la première coulée pyroclastique. Il continue à dicter à son secrétaire le compte-rendu de ce qu'il observe. De là, du rivage ou au cœur de Pompéi, où les survivants tentent de fuir par tous les moyens, on observe les lueurs de la coulée rouge, flamboyante, et on les prend pour des incendies. Pline le Jeune, à qui l'on doit des descriptions fondamentales des faits, écrit encore ceci. De l'autre côté de la baie, une nuée noire et horrible, déchirée par des tourbillons de feu, laissait échapper de ses flancs entrouverts de longues traînées de flammes semblables à d'énormes éclairs. À 4,5 km de Pompéi, à Stabi, sur la plage, Pline l'Ancien retrouve son ami Pomponianus. Avec sa femme et ses esclaves, chargés de coffres, de vaisselle, de chandeliers, de marbre, il attend que l'on embarque tout sur un bateau afin de prendre le large. Il est prêt à lever l'ancre et à fuir cette région de malheur. Pline, qui vient d'affronter la mer, sait que cela sera rigoureusement impossible. Une fois passée la gangue de pierre, c'est le vent du large qu'il faudra affronter. Une pure folie. Tout le monde s'en retourne alors dans la villa de Pomponianus. Cette dernière a beau être majestueuse, elle n'en est pas moins fragile. Et les pierres qui s'abattent à chaque nouvelle exhalaison du Vésuve ne vont pas tarder à la faire s'écrouler. On fait donc demi-tour, dans le plus grand désordre. À la lueur des torches, la troupe se met en branle, chacun s'attachant un oreiller sur la tête pour se prémunir des chutes de pierres. Retour sur la plage. Les voiles du quadrirème servent d'abri de fortune. On repousse régulièrement les pierres ponces qui viennent s'y poser. On y voit goutte et pourtant, l'aube n'est pas loin. Le volcan ne décolère pas. Chaque nouvelle colonne verticale, lourde de milliers de tonnes de déchets, de pierres et de gaz, semble plus haute que la précédente. Et à chaque fois, elle retombe en une nuée pyroclastique, elle aussi, plus violente que la précédente. Durant les 2 jours que va durer l'éruption, on comptera 6 coulées. Dont 2 seront fatales à Pompéi, détruisant tout sur leur passage et figeant les habitants dans leur quotidien, leur fuite, leur vie. Figés, c'est bien de cela qu'il s'agit. Les Pompéiens n'ont tout simplement pas eu le temps de fuir, tant la vitesse de la nuée ardente était hallucinante et la chaleur démentielle. Pris dans un nuage à 300 degrés, le corps humain ne met que quelques secondes à être totalement déshydraté. Et c'est cela précisément qui tua la majorité des hommes, femmes, enfants, mais aussi animaux de Pompéi. Quand ils ne sont pas morts sous les éboulis de leur maison ou d'asphyxie, c'est la chaleur infernale des nuées qui eut raison d'eux. En revanche, selon des chercheurs italiens, spécialistes de l'éruption, l'examen du linge, des fresques et des squelettes de Pompéi permet d'exclure que des brûlures aient contribué à la mortalité. Revenons brièvement sur la plage de Stabi, à 4,5 km de Pompéi. Les coulées pyroclastiques se succèdent, et Pline, son ami Pomponianus et les autres attendent celle qui va les emporter. On prie, on pleure, on pense que la fin du monde est arrivée, que plus jamais le soleil ne se lèvera. Pour Pline, ce militaire, auteur, poète, naturaliste, qui n'a pas 60 ans, ce sera le cas. Il mourra sur la plage de Stabi. Son neveu, dans l'une de ses lettres à Tacite, prétend que Pline, dont les poumons étaient fragiles, serait mort d'avoir respiré trop de gaz sulfureux répandu par le nuage. Ses compagnons d'infortune, pourtant, en ont réchappé. Il est donc plus que probable que le grand, gros et vieil homme fût victime d'une crise cardiaque sur le rivage, où l'on retrouva son corps intact le lendemain. À Misène, où il est resté avec sa mère, Pline le Jeune, vit aussi des heures sombres. Il écrit ceci. On entendait les gémissements des femmes, les vagissements des bébés, les cris des hommes. Les uns cherchaient de la voix leur père et leur mère, les autres leurs enfants, les autres leurs femmes, tâchaient de les reconnaître à la voix. Certains déploraient leur malheur à eux, d'autres celui des leurs. Il y en avait qui, par frayeur de la mort, appelaient la mort. Beaucoup élevaient les mains vers les dieux, d'autres, plus nombreux, prétendaient que déjà il n'existait plus de Dieu, que cette nuit serait éternelle et la dernière du monde. Et pourtant, au terme de 2 jours de chaos, de cendres et de sang, après 6 nuées ardentes, des millions de tonnes de roches magmatiques, de pierres ponces envoyées dans les airs, le Vésuve va se calmer, enfin. Oui, mais, et l'eau que nous évoquions tout à l'heure, en quoi a-t-elle joué un rôle dramatique dans cette tragédie? L'eau, mesdames, messieurs, s'est peu à peu infiltrée dans le volcan. C'est ce que pensent les spécialistes. Les nappes et autres rivières qui alimentaient le si précieux aqueduc d'Auguste ont été bues, en quelque sorte, par le Vésuve. Siphonnées, aspirées. Le contact de l'eau et de la lave a créé un choc thermique énorme, augmentant la pression interne du volcan et provoquant ce qu'on appelle une éruption phréatomagmatique. Et c'est ainsi, sans doute, que se conclut la terrible catastrophe. Pline le Jeune, dont le seul témoignage parvint jusqu'à nous, écrit encore. Enfin, la traînée noire dont j'ai parlé s'éclaircit et s'évanouit à la manière d'une fumée ou d'un brouillard. Puis brilla le vrai jour, même le soleil, mais avec la teinte jaunâtre qu'il a lors des éclipses. Au regard encore mal assuré, les objets s'offraient sous un nouvel aspect, couverts d'une cendre épaisse, comme d'une couche de neige.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, nous affrontons la colère du Vésuve, aux côtés des habitants de Pompéi, en l'an 79 de notre ère. Figés pour l'éternité, certains corps retrouvés n'en finissent pas de parler. Alors, écoutez plutôt. Pendant des siècles, Pompéi n'a plus été qu'une ville fantôme recouverte de plusieurs mètres de sédiments, lesquels ont empêché que le site soit pillé, et qui ont permis, lorsqu'on s'y est intéressé à nouveau, de faire des découvertes essentielles sur la vie à l'époque romaine. Il faudra attendre la fin du XVIe siècle pour que, fortuitement, l'on découvre les premières ruines. Cela se passe durant le creusement d'un canal visant à détourner le fleuve Sarno. On découvre d'abord des pièces de monnaie, puis des blocs de marbre portant des inscriptions et des peintures. L'architecte Fontana, qui mène les travaux, ne mesure pas l'importance de ce qu'il vient de mettre au jour. Aussi, quand son canal est creusé, il fait reboucher la tranchée d'où l'on a extrait les précieux trésors. D'aucuns prétendent que c'est notamment parce que certaines peintures présentaient une haute teneur érotique. En 1709, les affaires reprennent, cette fois plus sérieusement, puisque c'est un féru d'histoire, le prince Emmanuel Maurice de Lorraine, qui exige que l'on fouille sur le terrain qu'il vient d'acquérir. On met au jour des statues, des inscriptions gravées dans le marbre. C'est d'abord du côté d'Herculanum que l'on creuse, puis au lieu dit Civita, la cité, le nom donné à Pompéi au fil des siècles, preuve qu'elle avait été totalement oubliée. Là, tout est plus facile, car la couche de cendre est bien plus tendre et facile à déblayer que la roche, d'une épaisseur, tenez-vous bien, de 20 mètres, qui recouvrait Herculanum. Mais l'intérêt de ces archéologues-là n'est pas scientifique. Une fois leur trésor sorti du ventre des différents sites, ils plient bagages, non sans avoir remblayé les édifices fouillés. Il faut attendre 1765 et une découverte majeure, le temple de l'Odéon, pour que Pompéi devienne le centre de toutes les attentions. Car enfin, on avait découvert des vestiges dignes de ce nom. Mais ce qui fit grand bruit, ce fut quelques années plus tard, en 1771, ces squelettes miraculeusement préservés. On en dénombra 11 dans la villa Diomède. Ce ne fut toutefois pas suffisant pour que l'on prenne pleinement conscience du trésor qui dormait là. Afin d'attirer les visiteurs de marque, on fit tout et n'importe quoi à Pompéi. Ah, vous voulez des exemples ? En voici. Afin d'éblouir les visiteurs et pour raviver les couleurs des peintures murales, on les aspergeait d'eau. On a également retiré les grosses pierres qui, sur la voie centrale, l'avenue de l'Abondance, permettaient de traverser à pied sec quand l'eau montait sur les pavés. Une hérésie archéologique. Quant à ces corps, surpris dans leurs derniers instants, figés pour l'éternité, ils ne firent leur apparition que bien plus tard. C'est à Giuseppe Fiorelli que l'on doit la géniale invention du moulage. Ce dernier a versé du plâtre liquide dans les espaces vides laissés dans les couches de pierres ponces et de cendres. 1150 corps humains furent ainsi sortis du néant. C'est ainsi que le monde, ébahi, a pu découvrir les derniers instants des hommes, des femmes et des enfants de Pompéi. Certains tentaient de fuir, d'autres de protéger les plus faibles, d'autres encore de mettre leur argent à l'abri. Les plus célèbres d'entre eux sont sans doute ceux que l'on a surnommés les 13 fugitifs. 13 victimes retrouvées ensemble, formant toutefois 3 groupes distincts. C'est le plus grand moulage réalisé simultanément. Il a fait l'objet de toutes les interprétations, de toutes les fantasmagories aussi. Qui étaient-ils ? Que faisaient-ils là ensemble ? Lorsqu'Amedeo Maiuri est nommé responsable en 1924, il fouillera inlassablement le site pendant 37 ans. Il commence à leur imaginer une histoire. Selon lui, parmi les 13 victimes, il y aurait 2 familles de fermiers et une de marchands. Il voit 2 garçons qui se tiennent par la main pour ne former qu'un seul corps, mais aussi une mère, encore affaiblie par sa grossesse, qui protège le plus petit de ses enfants, une fillette, pour atténuer ses douleurs. Et l'homme qui se tient sur un bras, c'est le marchand. Selon Maiuri, il se dégage des cendres pour tenter de sauver sa famille. Pour les archéologues qui travaillent aujourd'hui sur le site, cette histoire n'est qu'une fiction, un roman, une fable destinée à attirer les touristes. Et ça marche. Pompéi est à ce jour le 2e site le plus visité d'Italie après le Colisée à Rome. Ce qui ne manque pas d'étonner celles et ceux qui ont la chance de déambuler dans ces lieux chargés de drames et d'histoires, c'est aussi la position des corps. Beaucoup sont recroquevillés sur eux-mêmes, bras et jambes repliés, comme s'ils cherchaient en vain à se protéger. Là encore, c'est une interprétation à laquelle on aimerait croire, mais qui est pourtant scientifiquement explicable. Ces bras pliés, serrés contre le corps, ses genoux remontés vers le ventre, ne sont que le résultat de la contraction des corps exposés à des températures extrêmes. Instantanément déshydratés, on l'a dit, les muscles se sont contractés, cuits sur place par les gaz brûlants. On estime que 15 000 personnes sont mortes suite à l'éruption du Vésuve en l'an 79. 3 000 d'entre elles auraient été victimes des nuées ardentes successives qui ont dévalé des flancs de la montagne, emportant tout sur leur passage. À Pompéi, on compte 1150 corps pétrifiés que l'on tente toujours de faire parler. Qui étaient-ils ? Que faisaient-ils quelques heures avant d'être emportés dans l'au-delà ? Si de ces vies arrêtées dans leur élan, on ne peut rien affirmer avec certitude, les objets et les maisons, eux, sont bavards. Ainsi, ce vêtement de laine retrouvé sur un corps qui a permis de remettre en question la date de l'éruption située au 24 août est tenu pour officiel depuis des siècles jusqu'aux récentes découvertes qui l'ont remise en question. Et puis il y a ces jarres qui prouvent que les vendanges avaient déjà eu lieu. Depuis que les fouilles ont été entreprises de manière scientifique et systématique, Pompéi n'a cessé de livrer des trésors. En matière d'architecture, par exemple. Le nombre de maisons sorties de lamas de cendres et de roches volcaniques est impressionnant. Et surtout, leur état de conservation est remarquable. Pourtant, à cause de l'ouverture au public, ces villas pompéiennes, préservées depuis près de 20 siècles, ont terriblement souffert. Afin de les restaurer, la surintendance, chargée de la conservation du site, a utilisé des matériaux trop lourds, ce qui a eu pour effet notamment de faire s'écrouler la Schola Armaturanum. D'autres effondrements ont eu lieu, si bien qu'aujourd'hui, seuls 10% des maisons sont accessibles au public. À grand coût de millions d'euros, le travail a repris. Un grand projet initié par l'UNESCO a permis de consolider les édifices et de les restaurer proprement. En 2020, trois domus, comprenez maisons, ont pu être rouvertes. Après 40 ans passés portes closes, couverte d'une épaisse couche de poussière et d'une saleté laissée par le tremblement de terre qui a secoué la région en 1982, la maison des chastes amants, la maison du verger et la maison de l'Europe sont à nouveau accessibles. Et tout ça grâce notamment à la technologie, des drones, des scanners au laser et la reconstitution en 3D se sont invités au cœur même de l'Antiquité. Un mariage du passé et du présent pour éblouir à nouveau les quelques 4 millions de visiteurs qui se pressent chaque année à Pompéi. Parmi les endroits les plus prisés, il y a donc cette maison des chastes amants où on a retrouvé sur un mur cette inscription d'une folle poésie. Les amants, comme les abeilles, souhaitent une vie aussi douce que le miel. C'est la seule maison de Pompéi qui possède un deuxième étage aussi bien conservé. On peut aussi y admirer une fresque représentant deux amants qui s'embrassent tendrement, ce qui est rare à Pompéi. En effet, d'ordinaire, ce sont plutôt des représentations phalliques, des dessins très crus qui ornent les murs. Obsédés, les Pompéiens ? Non, ces sexes priapiques avaient pour but de protéger les maisons contre les forces du mal et d'éloigner le mauvais œil de leurs habitants. Déambuler dans les rues de Pompéi, c'était aussi découvrir à quel point les constructions étaient modernes, tout comme l'organisation de la société qui y vivait. Une basilique, un marché couvert, plusieurs centres de thermes, la ville, même si elle déclinait, était un modèle lors de son ensevelissement en l'an 79. Les thermes du forum, suffisamment solides pour continuer à fonctionner après le tremblement de terre de 62, offraient deux sections, l'une pour les hommes, l'autre pour les femmes. Toutes deux possédaient un frigidarium, une salle froide, vous l'aurez compris, un tépidarium, la salle tiède, et un caldarium, soit une salle chaude. Tout ceci régulé par un ingénieux système de chauffage et de refroidissement qui circulait dans des tuyauteries insérées dans les interstices des murs. Mais Pompéi, on l'a dit, ne fut pas la seule cité victime de l'éruption du Vésuve. Herculanum, située à une quinzaine de kilomètres de sa sœur de souffrance, paya elle aussi un lourd tribut à la colère du volcan. Située bien plus près du cratère, elle échappa à la pluie de cendres et de roches volcaniques grâce au vent. En revanche, elle fut dévastée par les nuées ardentes qui dévalèrent de la montagne. La majorité des habitants fut sans doute tuée par les coulées pyroclastiques. En témoignent les nombreux squelettes découverts sous les voûtes bordant le rivage, sans doute des entrepôts pour les bateaux, qui présentent des signes de chaleur extrême. À Herculanum, les victimes furent surprises par la première déferlante. Hélas, elles ne moururent pas tout de suite. Leurs restes présentent des signes d'agonie. Après le drame de 79, le Vésuve s'est remis en sommeil. Mais de nouvelles coulées de lave eurent lieu entre 787 et 1139. Puis à nouveau, on observa 5 siècles d'inactivité. La nature reprit ses droits. Des jardins et des vignes agrémentèrent à nouveau ses flancs. En 1631, le volcan gronda à nouveau et l'activité ne cessa pas, alternant éruption et repos jusqu'en 1944. Depuis, RAS n'a rien à signaler. Pourtant, tous les vulcanologues s'accordent à dire que la montagne qui domine la baie de Naples n'a pas dit son dernier mot. La question pour les scientifiques n'est pas de savoir si le Vésuve va se réveiller, mais quand ? Le Vésuve fabrique tous les nuages du monde. La mer est bleu marine. Il pousse des jacinthes sur les trottoirs, écrivait Jean Cocteau à sa mère en 1917. Pompéi ne m'a pas étonné. J'ai été droit à ma maison. J'avais attendu 1000 ans sans oser revenir voir ces pauvres décombres. C'est sur cette note poétique que se referme leur âge de Pompéi. Un récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Jacqueline van der Beek.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.